Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet assez intense, la récupération d'une personne tombée à l'eau, l'homme à la mer ou HLM.
Oui, une manœuvre critique.
Absolument. Et c'est jamais anodin. Notre source, ce sont des extraits d'un script de podcast, un épisode qui détaille justement cette procédure.
D'accord.
L'objectif, c'est de bien comprendre les étapes, la logique derrière tout ça. Et pour commencer fort, la source mentionne direct un danger qu'on oublie peut-être.
Ah oui, lequel?
Bah, le choc avec le bateau lui-même, même à faible vitesse, la masse. Le script parle de 150 kilos, bon, ça paraît peu pour un voilier, mais ça illustre l'idée. Une collision peut être mortelle.
C'est clair, ça pose l'importance de la maîtrise.
Voilà, alors plongeons là-dedans.
Tout à fait. C'est une urgence, bien sûr, mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. La méthode est là pour ça, pour cadrer l'action.
Pour éviter la panique.
Exactement. La rapidité, oui, mais organisée, méthodique. Chaque seconde compte, mais chaque geste aussi doit être juste.
Ok, alors, concrètement, la personne est à l'eau. C'est quoi les toutes premières secondes, les réflexes immédiats décrits dans la source NUM?
Alors, le script insiste énormément sur deux choses, deux impératifs. Le premier, ne jamais, jamais le quitter des yeux.
Jamais.
C'est martelé. Une tête dans l'eau, ça disparaît vite. Une vague, l'éloignement, hop, on l'a perdu.
On imagine le cauchemar si ça arrive, surtout avec de la mer.
C'est ça. Garder ce contact visuel, c'est la base de tout. Sans ça, on passe de l'urgence à la recherche quasi désespérée.
Logique. Et le deuxième impératif?
Ralentir, tout de suite. Freiner le bateau, casser son air.
Pourquoi immédiatement?
Bah, d'abord, pour pas s'éloigner trop. Plus on est proche, plus vite on revient. Logique. Et ensuite, ça prépare déjà la suite. La manœuvre de récupération, elle demande de naviguer très lentement. Donc, autant être déjà ralenti et sous contrôle.
D'accord, donc voir et freiner, les deux piliers.
C'est ça.
Ensuite, la source parle d'une manœuvre spécifique. Elle l'appelle la manœuvre de la rallying. Bon, le nom est un peu curieux. La rallying, c'est le bord de la voile. Est-ce qu'ils expliquent d'où ça vient?
Non, le script ne s'attarde pas là-dessus, on dirait. Il se concentre vraiment sur la technique. Et surtout sur l'allure pour l'approche finale. C'est un point clé.
Ah, et quelle est cette allure?
Le bon plein. Il faut arriver sur la personne au bon plein. Alors, pour rappel, le bon plein, c'est quand on remonte face au vent, mais pas complètement. Le vent arrive, disons, de biais par l'avant.
D'accord, et pourquoi spécifiquement le bon plein? Qu'est-ce qu'il a de si spécial pour cette situation?
Ben, d'après le script, c'est vraiment le meilleur compromis. C'est présenté comme la seule allure qui garantit deux choses à la fois.
Lesquelles?
D'un côté, le bateau reste très manœuvrant, on peut ajuster finement la trajectoire avec la barre, les voiles, et de l'autre, on peut tenir une vitesse très très faible, voire s'arrêter pile au bon moment.
Sans perdre le contrôle.
Voilà. Ce qui pourrait arriver à d'autres allures si on est trop lent ou si on arrivait vent arrière, par exemple. Là, on garde un contrôle maximal à vitesse minimale. C'est ça l'idée.
Et la personne par rapport au bateau. Le script donne une indication?
Oui, très clair. Il faut récupérer la personne au vent du bateau.
Au vent, ça veut dire si.
Ben, ça veut dire que la personne se trouve du côté d'où vient le vent par rapport au bateau. Si le vent vient de gauche, de bâbord, la personne sera à bâbord au moment où on arrive à sa hauteur.
D'accord. Et les avantages de cette position?
Il y en a deux principaux, selon la source. D'abord, la visibilité. L'équipage peut voir la personne jusqu'au dernier moment, sans être gêné par les voiles, par exemple.
Logique.
Et deuxièmement, c'est lié à la dérive. Une fois qu'on est quasiment arrêté, le bateau, lui, dérive sous l'effet du vent et des vagues. Et il dérive plus vite que la personne dans l'eau.
Ah oui.
Donc, si la personne est au vent, le bateau va avoir tendance à s'écarter d'elle en dérivant. Il ne va pas être poussé sur elle. C'est une sécurité.
Ça évite un suraccident, en somme. Mais la source mentionne aussi un inconvénient à cette approche au vent, non?
Oui, c'est le revers de la médaille de cette dérive. Comme le bateau dérive plus vite que la personne.
Il s'éloigne vite.
Exactement. La fenêtre pour attraper la personne est très courte. Si on rate le moment précis où elle est à portée de bras, hop, le bateau s'écarte sous le vent. Et là, ben, faut potentiellement tout recommencer, la boucle d'approche.
Ah oui, ça demande une précision.
Chirurgicale, c'est le mot, dans le timing, dans la manœuvre finale.
Donc c'est un choix stratégique en fait. On choisit la sécurité de la visibilité et d'éviter l'écrasement par la dérive.
C'est ça.
Mais ça rend l'approche finale plus exigeante techniquement.
Tout à fait. C'est un bon exemple de gestion des risques. On maximise le contrôle visuel, on évite un danger, mais on accepte un défi technique plus élevé sur la fin. Ça montre bien qu'il ne faut pas juste connaître la procédure, il faut la maîtriser.
Et cette procédure, justement, le script la décrit comme une séquence, une sorte de chorégraphie, si on veut. Vous pouvez nous la détailler? Il y a cette étape un peu surprenante où on s'éloigne d'abord.
Oui, c'est très structuré. Alors, on récapitule 1. On a vu la personne, on garde le contact visuel, on ralentit. Première vraie manœuvre. On vire de bord ou en abat pour faire une boucle et passer sous le vent de la personne. Le vent nous pousse alors vers elle. On se retrouve au large, par exemple.
Ok, on est derrière elle par rapport au vent.
C'est ça. Et là, étape 2, c'est là que ça surprend. On continue un peu sur cette allure, donc on s'éloigne légèrement.
Pourquoi ne faire ça? On perd du temps, non?
Alors, la source dit que ça peut rassurer la personne, lui montrer qu'on manœuvre de façon contrôlée. Mais surtout, ça donne de l'espace, du champ pour préparer la suite proprement. Et un point essentiel ici, éviter l'empannage à tout prix.
D'accord, on y reviendra sur cet empannage. Donc, on s'est un peu éloigné. Et après ?
Après, étape 3, on vire de bord. On tourne en passant face au vent. C'est plus doux, plus contrôlé qu'un empannage. Et ce virement, ça nous met sur la bonne allure pour revenir. Le fameux bon plein.
En remontant vers la personne.
Exact. Et là, c'est le pilotage fin. On ajuste en loffant un peu, en abattant un peu, pour viser juste.
Pour arriver pile comme il faut.
Voilà. Étape 4, l'approche finale. On est au bon plan, la personne est juste au vent, à portée de main, et le plus dur, on arrive à son niveau avec une vitesse nulle, zéro. Il faut tuer l'air du bateau pile au bon endroit, au bon moment.
Waouh! Cette histoire de vitesse nulle au contact, ça me semble vraiment le sommet de la difficulté technique.
C'est le point d'orgue de la manœuvre, oui.
Et revenons sur l'empannage. Pourquoi cette interdiction si formelle pendant qu'on s'éloigne?
L'empannage, c'est quand on change de côté par rapport au vent en passant par le vent arrière. C'est souvent plus dynamique, voire brutal s'il y a du vent.
La baume qui traverse le cockpit.
Exactement. La baume qui balaye tout. Dans une situation d'urgence, HLM, l'équipage est peut-être réduit, stressé. Empanner mal, ça peut vouloir dire blesser quelqu'un, perdre le contrôle, casser du matériel.
Ou même percuter la personne à l'eau.
Oui, ou compliquer encore la récup. Donc, la procédure choisit la sécurité. Deux virements de bord contrôlés, c'est plus sûr qu'un virement et un empannage potentiellement risqué. C'est toujours cette idée de maîtrise, même dans l'urgence.
Donc, s'éloigner un peu au début, ce n'est pas du temps perdu, c'est pour préparer une approche plus sûre et éviter les manœuvres dangereuses.
C'est tout à fait ça. Se donner de l'espace, stabiliser et viser cette approche finale au bon plein, contrôlée, à vitesse nulle, avec la personne au bon endroit. Chaque étape a sa raison d'être.
Ok, c'est très clair pour la manœuvre du bateau. Mais une fois qu'on est là, à côté de la personne, il reste le plus dur, non? La remontée à bord, physiquement, ça doit être très difficile. Qu'est-ce que la source dit là-dessus?
Oui, c'est une autre paire de manches. Le script en parle, surtout si la personne est consciente. Il conseille de préparer un bout de ressalage.
Un bout de ressalage? C'est quoi?
En gros, un cordage, une sangle, une boucle qu'on peut lancer à la personne. Si elle peut s'y accrocher ou y passer un bras, ça donne un point de traction solide. Ça aide beaucoup pour la tirer ou au moins la maintenir contre la coque le temps de s'organiser.
D'accord. Et le gilet de sauvetage, il sert juste à flotter ou il a un rôle ici aussi?
Ah non, son rôle est super important pour la récupération. La source insiste, le gilet doit permettre de saisir la personne par les bretelles pour lisser.
Donc la conception du gilet est clé.
Exactement. Des bretelles solides, accessibles, idéalement des poignées faites pour ça. Ça change tout. Essayer de tirer quelqu'un par un tissu mouillé et glissant, c'est presque impossible. Le gilet, c'est vraiment l'interface entre la personne à l'eau et les sauveteurs.
C'est un point important, ça. Quand on choisit son gilet, il ne faut pas penser qu'à la flottabilité. Il faut aussi penser à comment on sortira la personne de l'eau avec.
Précisément. C'est un critère essentiel. Le script mentionne le bout de ressalage pour quelqu'un de conscient, mais imaginez une personne inconsciente ou affaiblie par le froid. Là, les prises sur le gilet, c'est encore plus vital.
Et puis, il y a le poids.
Ah oui, il ne faut jamais sous-estimer l'effort. Hisser un corps mouillé, inerte, même depuis un bateau qui bouge un peu, c'est énorme. Parfois, il faut des systèmes de palans, des techniques spéciales, surtout si le franc-bord est haut.
C'est clair. La manœuvre est loin d'être finie quand le bateau est à côté. Bon, si on devait résumer les points vraiment essentiels qu'on retient de cette analyse du script...
Alors, je dirais 1, la réaction immédiate, voir et ralentir, les deux en même temps, quasi.
Contact visuel et frein.
C'est ça. Ensuite, deuxième point, il y a une procédure, la manœuvre de la rallying avec une allure clé, le bon plein, pour le contrôle à basse vitesse.
D'accord.
Troisième point, le choix de récupérer au vent, pour la visie et éviter la dérive sur la personne, même si c'est plus dur pour le timing final.
Un choix tactique.
Oui. Quatrième point, la séquence précise, s'éloigner un peu sous le vent, éviter l'empannage, virer, revenir au bon plein, viser juste. Chaque étape a sa logique de sécurité.
Et le dernier point ?
Et cinquième, l'équipement pour la récup physique. Le boudre-salage si possible, et surtout un gilet avec de bonnes prises pour pouvoir hisser la personne. C'est capital.
Tout ça, ça montre bien que c'est pas juste de la navigation loisir. C'est une vraie compétence d'urgence qui demande rigueur et entraînement.
Ah, complètement. Ce qui ressort, c'est qu'il faut être préparé. Mentalement, savoir quoi faire, gérer le stress. Matériellement, avoir ce qu'il faut, savoir s'en servir. Et techniquement, maîtriser son bateau, les manœuvres fines.
La pratique régulière, en somme.
Essentiel. Pour que la procédure devienne un réflexe. C'est l'entraînement qui fait la différence le jour J. Pour tout l'équipage, d'ailleurs.
C'est une très bonne synthèse. Et pour finir, peut-être ouvrir un peu la réflexion au-delà du script. Cette procédure, c'est un idéal, non ? Mais en mer, c'est rarement idéal.
Effectivement.
Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment cette chorégraphie s'adapte quand la mer est vraiment mauvaise, quand le vent hurle, quand on voit mal ? Et puis, il y a l'état de la personne. Hypothermie, blessure, panique, ça change tout, non ? Et les facteurs humains à bord ? La fatigue, le stress, combien on est, comment tout ça influence la réussite, au-delà de la technique pure?
C'est la question. Le lien entre la procédure et le réel. Le script donne la partition, oui, mais l'interprétation, elle dépend des conditions, du chef d'orchestre, le skipper, et de l'équipage.
L'adaptation devient clé.
Exactement. Face à du gros temps, peut-être que certaines étapes changent, que les risques ne sont plus les mêmes. Sortir quelqu'un en hypothermie avancée, ce n'est pas pareil que par beau temps. C'est là que le jugement, l'expérience, la capacité à évaluer vite et bien, tout ça prend le dessus. La procédure, c'est la fondation. L'adaptation, c'est ce qui permet de construire dessus dans le monde réel. Une réflexion vitale pour tous ceux qui prennent la mer.